Chapitre 24. Diego. Vous êtes bien matinale, Madame de Villers. Vous n'en savez rien, Signor Estrella. Peut-être qu'il est 14 heures, peut-être qu'on a dormi comme des ados. C'est vrai qu'avec les irrégularités de la roche basaltique dans le dos, on était dans du sommeil 4 étoiles. Elle me sourit dans la lueur blafarde de ma lampe frontale. Nous nous sommes éloignés des tentes, mais nous chuchotons afin de laisser les autres terminer leur nuit. Chacun aura besoin de ses capacités physiques et mentales aujourd'hui. J'ai dormi en gardant ma prothèse, ce qui ne m'arrive jamais. J'avais peur de devoir me lever d'un coup en cas de danger. Tenerife est en zone sismique, alors on n'est sûr de rien. Et puis je craignais de ne pas parvenir à la remettre au réveil. Avec un tel taux d'humidité, mon moignon a tendance à enfler. L'extrémité directement au contact de la prothèse est endolorie, mais ça va passer. Alors, Madame de Villers, si vous voulez manger quelque chose ce matin, je peux vous proposer notre célèbre ration déshydratée goût poulet rôti, accompagnée de sa compression de légumes arôme garrigue. Bizarrement, je n'ai pas très faim. Des sourires encore. Mais une gêne certaine que nous essayons de dissiper en badinant. Depuis notre escapade à l'observatoire, ni l'un ni l'autre n'a encore crevé l'abcès. Au saut du lit, c'est un peu compliqué pour nous deux. Anna préfère donc se lancer sur le terrain professionnel, et c'est sans doute préférable. Les autres dorment encore, mais puisque nous sommes debout, essayons d'avancer le chantier d'exploration des inscriptions murales, en respectant la méthode, cette fois-ci pour que Combe ne pète pas un câble. J'ai trouvé ça touchant, au final, cette explosion réconciliation, en l'espace de quelques minutes. Je crois qu'il faut toujours dire la vérité si on veut avancer. Je suis bien d'accord. Nous décidons de laisser un mot au reste de l'équipe, en lui indiquant que nous nous sommes dirigés vers la galerie inexplorée. Puis nous nous mettons en route, appliquant la méthode petit pousset. Nous semons, au fil des bifurcations, des morceaux de papier pliés que nous calons entre les pierres. Le sol est torturé, probablement creusé par la succession des crues et des crues. L'avancée est pénible pour moi, ma jambe tiraille. Je me demande même si je n'ai pas une lésion due au frottement et au choc provoqué par la marche intensive d'hier. Mais je prends sur moi et ne dis rien. Hors de question de passer pour le handicapé de service avec Anna, même si les conditions sont difficiles. Le parcours dans cette galerie est somptueux. Aux tunnels et étroitures succèdent de belles salles où nous découvrons toutes sortes de merveilles géologiques. Stalagmites réunis en bouquets, excroissances de basalte en forme de champignons géants, amas harmonieux de roches déposées là comme par magie, effondrements dessinant d'impressionnantes statues que l'on dirait tirées de légendes anciennes, concrétions en dégradé de brun, de noir et de rouge traversées par des filets d'eau ruisselante. Le spectacle est partout. Lorsque nous arrivons dans la zone non cartographiée, Anna et moi sommes toujours aussi enthousiastes malgré la fatigue. Depuis combien de temps marchons-nous? Je dirais 1 heure, mais je n'en suis pas sûre. J'ai perdu la notion du temps et désormais j'ai également perdu celle de l'espace. Je prends conscience que sans nos petits papiers déposés un peu partout, il nous serait impossible de rentrer au camp. Heureusement qu'il n'y a pas un brin de vent dans ce dédale, sinon le labyrinthe se transformerait en tombeau. Cette pensée, bien qu'exagérée, me donne la chair de poule. Dans les galeries que nous traversons figurent des dizaines d'inscriptions murales. Les recenser est un travail titanesque, mais quelle expérience fabuleuse! Nous découvrons des remerciements façon ex voto dans diverses langues. Des phrases entières en espagnol, en catalan, en français, en anglais et même en russe. Des dessins d'animaux, des prénoms parfois associés à des dates allant jusqu'au XVIe siècle. Des obscénités écrites ou illustrées. Des déclarations d'amour, des initiales entourées d'un cœur, des promesses de bonheur. Anna et moi contemplons en silence ces messages du passé. C'est émouvant, presque intime, ce recueillement solennel. Nous sommes désormais à près de 2 heures de marche de notre camp, dans une obscurité si dense que je pourrais la saisir entre mes doigts. Il ne va pas falloir tarder à rebrousser chemin. Nous approchons de l'entrée d'une cavité au sein de laquelle nous entendons de l'eau couler en abondance. Plus nous avançons, plus la température grimpe, plus la vapeur envahit l'espace et plus l'odeur de soufre nous saisit. Devant nous, la gueule noire d'une salle où l'activité volcanique a créé une source chaude. Anna et moi l'abordons à pas lents, attirés par cette découverte sensationnelle. Nous comprenons très vite que nous sommes dans un cul-de-sac, une ligne de faille sismique ayant provoqué la jonction de deux fractions rocheuses de couleurs et textures différentes. Depuis le plafond, des écoulements ont sculpté toutes sortes de draperies, modelées d'improbables fistuleuses, tandis qu'à quelques mètres en contrebas repose un lac d'eau chaude, qui semble alimenté par une béance souterraine provoquant un léger bouillonnement. Impossible de toucher cette eau, car la pente qui y mène est presque verticale. Nous n'allons pas pouvoir rester. Il fait beaucoup trop chaud et l'odeur d'œuf pourri me prend à la gorge. Je le dis à Anna. Je suis d'accord, laisse-moi juste faire quelques photos et dans 3 minutes on repart. Pendant qu'elle progresse le long de la paroi, j'observe les volumes gigantesques et le plafond sinueux. Soudain, un glissement, un cri, mon cœur qui s'emballe. Et le bruit mat du corps d'Anna qui tombe dans l'eau.